Voilà les amis, il y a quelque temps je vous avais partagé sur cette confrontation qu'on a avec l'adversaire pour faire tomber les forteresses. Et on avait parlé de ce texte aussi d'Apocalypse 12, 11 qui dit qu'au niveau du peuple de Dieu, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et je vous avais partagé un peu des exemples par rapport à ça. Et je dois dire que ce fait, cette confrontation, au final, elle est plus facile en groupe que tout seul. C'est comme le jeûne, sérieusement. On peut jeûner tout seul, loin, à la montagne, sans frigo, sans rien du tout, où il n'y a que de l'herbe autour ou des ronces. Non, c'est top, mais jeûner en groupe, ça c'est bien parce qu'on peut se soutenir les uns les autres. T'en es où? Oh, c'est pas facile, ou ainsi, on peut se porter les uns les autres. Et ça aussi, cette confrontation avec l'adversaire, c'est bien de pouvoir le vivre en groupe parce que c'est du temps. Françoise nous a partagé par contre la semaine dernière ce fait de pouvoir être libéré de l'héritage générationnel négatif. Et là, ce qu'elle nous a partagé, c'est quelque chose où on est avec quelqu'un. Quelqu'un prie pour nous, on peut être à deux et puis vivre ce temps où on prie sur nos racines générationnelles négatives et ainsi de suite. Et ce matin, je vais vous parler d'une personne, ça continue dans le thème, mais je vais vous parler d'une personne qui, elle, s'est présentée toute seule devant Dieu. Bien que ce texte que je vais vous partager ce matin est très puissant à vivre en équipe, et même extraordinaire à vivre en équipe, mais cette femme a été comme un exemple qui est donné dans la parole de Dieu pour des situations un petit peu difficiles. Et cette femme, elle se prénomme Anne, et c'est la mère de prophète Samuel. Et je vais vous lire ce texte qui se trouve dans 1 Samuel 1, 19 versets, je vais vous lire, vous êtes prêts? C'est parti. Non, mais ça vaut la peine de lire ça. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yehoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices, là où se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, c'est pas sa copine, hein, sa rivale, ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne reprit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligée. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'épanchais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Le texte continue en disant « Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Waouh ! Waouh ! Quelle belle histoire ! Mais en même temps, ça ne devait pas être si facile que ça à la vivre, hein, sérieusement. Nous avons là l'histoire, une histoire vraiment très belle, très intéressante. Un homme du nom d'Elkana, un lévite, a deux épouses. Aïe, 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 aïe. Comme c'est généralement le cas, une est préférée à l'autre. On trouve ça aussi. Il y a des choses qui se répètent comme ça dans la parole de Dieu. On trouve ça avec Jacob aussi. Même si Jacob, lui, a été comme obligé d'avoir deux épouses parce qu'on lui en a refilé une. C'est vrai qu'il n'avait pas désiré, mais il s'est retrouvé avec deux épouses. Et puis, voilà, l'une est généralement préférée à l'autre. Et ce qu'il y a, c'est que, voilà, parce que quand il y a deux épouses, généralement c'est très difficile de s'attacher aux deux de la même manière. En tout cas, la Bible montre ceci, et quand il y en a deux, c'est là que les ennuis commencent. Et comme c'est souvent le cas, dans, en tout cas dans les histoires semblables dans la Bible, l'épouse préférée est stérile. Ça sera le cas de Rachel, ou plutôt, c'est avant, hein, c'était le cas de Rachel. Et là, c'est le cas de Anne, qui ne peut pas avoir d'enfant. Par contre, l'autre épouse, en l'occurrence, celle qui est moins aimée, on va dire comme ça, et dans ce texte, c'est Pénina, alors elle a des enfants, elle a des fils et des filles. Et Pénina, elle n'est pas idiote. On voit dans ce livre aussi, je pense, si je me mettais à la place de Pénina, je pense que Pénina doit souffrir. Parce qu'elle sait très bien qu'Elkana préfère Anne. Elle le sait très bien, cette femme. Et dans sa jalousie, elle va harceler Anne sur justement ce qui peine son cœur, cette impossibilité d'être mère. Et Pénina va être très cruelle envers Anne. Le texte nous dit qu'elle va lui causer du chagrin jusqu'aux larmes, jusqu'aux pleurs. Et le texte nous dit que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète et qui est là sans cesse. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années que Pénina harcèle Anne. Et cette année-là, eh ben, il y a un trop-plein, vraiment. Il y a eu trop d'harcèlement. Rien ne changeait, c'était toujours la même chose. Pénina continuait à harceler. Sauf que cette année-là, Anne, le texte nous dit, va déverser son âme devant Dieu. Dans les pleurs, dans le désespoir. Il est même dit qu'elle ne mange pas. Certains disent, bon, on peut dire elle jeûne, mais je ne suis pas sûr que ça soit volontaire. À mon avis, c'est le chagrin qui la pousse à ça. Elle ne peut rien avaler. Des fois, on est comme ça. Des fois, quand on vit des choses où notre cœur est touché, on n'arrive rien à avaler. Hein? L'esprit affligé, nous dit le texte, elle va chercher la face de Dieu, elle va supplier Dieu. Le verset 15 dit, elle va épancher son âme. C'est fort, ça. Elle va épancher son âme devant Dieu. Waouh ! Mes amis, j'aimerais vous dire que tous les jours, nous pouvons rencontrer des Pénina. sur notre lieu de travail, là où nous habitons, peut-être même dans notre propre famille, peut-être même des fois dans l'église locale que nous fréquentons, on peut rencontrer des péninas. À quelque part, partout où il y a de véritables enfants de Dieu, il y a des péninas. Parce que l'action de Pénina, c'est pour qu'on se révolte. C'est ça qu'elle cherche. Elle cherche à ce qu'on se révolte. Elle cherche cela, l'action de Pénina. Ces péninas, ces gens qui agissent comme cela contre nous, ça peut être des hommes et des femmes qui sont à nos côtés, dans, comme je l'ai dit, soit le lieu de travail, soit où nous habitons, un voisin, un collègue de travail, ou ainsi de suite. Ça peut être quelqu'un dans notre famille, peut-être qui nous en veut, un frère, une sœur, ou je sais quoi. Ça peut être une situation qui est là. Ça peut être justement, comme je l'ai dit, des hommes et des femmes, mais ça peut aussi être des situations aujourd'hui. Ça peut être aussi des circonstances que nous vivons et qui durent, qui ne changent pas, qui sont toujours là. Et nous soupirons tellement après un changement. Ces péninas nous causent du chagrin. Elles affligent notre esprit. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu ne va pas faire avec Pénina ce qu'il a fait avec Agar, femme d'Abraham. Agar, elle a été, mis loin de la maison d'Abraham. Mais Pénina, elle est là. Elle est là. Tu te lèves le matin, elle est là. Hein? Tu prends ton petit déjeuner, elle est là. À midi, elle est là. Dans la journée, elle est là. Le soir, elle est là. D'accord? Tu te couches, elle est dans la pièce à côté. Elle est là. Non. Mais j'aimerais dire, Dieu n'enlève pas les péninas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces péninas nous poussent vers Dieu. Elles nous poussent à crier à Dieu, à le supplier avec des pleurs, avec des lamentations, comme il est écrit dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 12, où il est dit ceci, « Revenez à moi, dit Dieu, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Pénina nous cause beaucoup de chagrin, vraiment. Elle nous fait beaucoup de mal. Mais il y a néanmoins, dans son action mauvaise, il y a néanmoins quelque chose de positif. Parce que dans son harcèlement, bon, ça dépend de l'attitude de notre cœur, mais dans son harcèlement, Pénina va créer en nous quelque chose d'extrêmement positif pour Dieu, qui a valeur de sacrifice, une valeur incroyable. C'est ce que David décrit dans le psaume 51, les versets 18 à 19, qui dit ceci, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. » Il y a là, dans ce psaume de David, une affirmation vraiment incroyable. Le sacrifice qui est agréable aux yeux de Dieu, le sacrifice qui plaît à Dieu, un des sacrifices, parce qu'il y en a plusieurs hein, dans le Nouveau Testament. On vient d'en faire un, magnifique. Merci beaucoup. Vous avez permis d'offrir un sacrifice. La louange est un sacrifice, mais un autre sacrifice, c'est ça, un esprit brisé. Et je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé chez Anne. Avec les attaques incessantes, avec le harcèlement continuel et vraiment méchant de Pénina, l'esprit de Anne s'est brisé en elle. Et par sa réaction, parce qu'elle aurait pu réagir différemment, elle aurait pu la tuer, hein. Sérieusement, on a tué pour moins que ça hein, à l'époque. Mais elle aurait pu la tuer, vraiment. Mais par sa réaction, elle a offert à Dieu ce sacrifice qui lui est agréable et ça a changé le cours de sa vie. Elle aurait pu se révolter. Elle ne l'a pas fait. C'est vraiment étonnant. Le positif de Pénina, c'est que sa méchanceté et la continuité de son fonctionnement a créé un esprit brisé. Et qu'est-ce qu'un esprit brisé ? C'est difficile à décrire. J'ai essayé. Je dirais ceci, c'est un esprit qui est arrivé au bout, connaissez l'expression « au bout du rouleau » ? C'est un peu ça. Hein ? Un esprit qui n'est plus en mesure de revendiquer, qui n'est plus en mesure de discuter, un esprit qui n'a plus de prétention, qui ne cherche plus à se justifier lui-même et qui ne connaît qu'une seule chose, c'est qu'il est entièrement à la merci de Dieu. Mais il est très difficile à Dieu de nous amener là, à ce stade-là. Mais Dieu sait parfaitement ce qu'il faudra dans notre vie pour cela, comme dans une église locale aussi, pour nous amener à ce stade-là. Parce que ce qui est valable pour une personne est aussi valable pour un groupe. Dans l'église locale aussi, nous pouvons avoir des péninas. Pas forcément des gens à côté de nous, mais des situations et des situations qui durent et qui durent et qui durent et qui... Franchement. Mais malheureusement, comme on a la fâcheuse tendance à résister beaucoup, comme nous avons de la peine à discerner cette œuvre de Dieu, parce que ça peut être une œuvre de Dieu, dans nos vies ou dans l'Église, nous prenons souvent un chemin opposé de celui de Anne. Nous venons rarement avec des larmes, avec des supplications devant Dieu, avec du jeûne et à chercher la face de Dieu, rarement. Généralement, nous réagissons, et des fois nous réagissons au quart de tour. Des fois, nous faisons la crêpe, c'est-à-dire, bon, cette situation, on bâche. Le voisin, j'en ai ras-le-bol, je me casse, je vais au Canada, perdu dans une cabane au milieu de la forêt. Je me barre, disons, comme ça, hein. Je donne un exemple. Mais des fois, nous faisons ça. J'en ai ras-le-bol, allez, loin, je laisse tout tomber. Loin. Des fois, nous réagissons comme ça, on fait la crêpe. Et nous essayons de changer, nous essayons de changer de vie, nous essayons de changer d'église aussi. Parce que des fois, à ce stade-là, l'église que nous fréquentons, c'est la pire de toutes. Alors, franchement. Donc, nous quittons. Mais Dieu n'a pas changé son plan. Et quelques années après, quelques années de répit, touc, il y a quelque chose qui recommence. Ça revient, ça recommence. Pourquoi ? Parce qu'un sacrifice qui plaît à Dieu... C'est un esprit brisé, un esprit qui lâche prise devant Dieu. Parce que Dieu veut nous amener là. Pourquoi ? Parce qu'il désire manifester sa gloire. Il désire que sa gloire puisse transparaître au travers de nos vies. Et un esprit brisé amène cela. Il permet que les capacités naturelles de l'homme arrivent au bout pour qu'à ce stade, il y ait une porte d'entrée pour la manifestation de Dieu. Un type disait, un serviteur de Dieu disait, quand l'homme en a fini avec lui-même, c'est là que Dieu peut se révéler et intervenir. Et puis, je ne sais pas pour les plus anciens, si vous avez vu le film « Les Dix Commandements » avec Charlton Heston, hein, où Moïse est un peu mort sur la montagne, comme ça. Vous avez déjà vu quand il revient, comme il marche comme ça ? C'est incroyable, ce truc. Mais dans ce film, le narrateur dit un truc extraordinaire. À un moment donné, Charlton Heston, il s'effondre, il fuit l'Égypte, il part dans le désert parce que quelqu'un l'a reconnu, tout ça. Et tout d'un coup, il tombe par terre. Et le narrateur dit ceci, c'est quand la créature touche la poussière qu'elle est prête à accomplir les desseins de son créateur. Je suis... Bon sang, le gars, qu'est-ce qu'il a dit là ? Bon, vous verrez, on passe par le positif arrive, hein. Ne vous en faites pas, dans la prédication, il y a quand même du positif, mais il arrive. Et Dieu veut faire ça. La femme qui avait cette perte de sang, elle est arrivée au bout. Vous vous souvenez ? Elle va venir toucher le vêtement de Jésus. Elle était arrivée au bout, 12 ans. 12 ans, vous faites 365 jours fois 12 et vous voyez le nombre de jours où elle a été considérée comme impure, écartée de la vie sociale. Parce que dans le Lévitique 15, il est dit qu'une femme, quand elle a une perte de sang, elle est considérée comme impure et mise de côté de la vie sociale jusqu'à ce que son temps soit fini. Mais vous vous rendez compte, là, c'est 12 ans, continuel. Elle est arrivée au bout, elle a tout essayé. Tous les médecins, elle a dû voir tous les charlatans du coin. Elle a dû voir tout ce qui était possible et imaginable. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle a dû se dire « Ah, j'essaye !» 12 ans. Waouh, 12 ans. Et Dieu l'a rétabli. J'aimerais dire ce matin que Pénina n'aura pas le dernier mot. Elle ne l'a pas eu dans cette histoire, elle ne l'aura pas. Elle n'aura pas le dernier mot dans nos vies, elle n'aura pas le dernier mot dans l'Église. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans le psaume 34 au verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Anne. Anne, elle s'est présentée devant Dieu et là la Bible dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. » Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le roi Ézéchias. Ézéchias a vécu la même chose que Anne, d'une manière différente. Pénina, c'était une maladie, un ulcère. Et le prophète Ésaïe vient vers lui et lui dit « Tu dois prévoir ta succession. Il faut que tu ranges tes affaires, que tu prévois la suite, parce que tu vas mourir. » Et là, il est dit quelque chose d'incroyable. Ésaïe quitte la pièce et Ézéchias dit, il se tourne contre le mur. Et là, il a fait exactement la même chose que Anne. Il est rentré en supplication. Il y a eu une intercession de supplication, si on peut dire comme ça. Et ensuite, Ésaïe est dans la cour et Dieu lui dit, retourne, allez. Et il retourne et il rajoute des années à la vie d'Ézéchias. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est une promesse que Dieu a faite. Et cette promesse, elle est pour tout homme et toute femme. Et il est dit ceci dans Hébreux 10, 23. Celui qui a fait les promesses, c'est-à-dire Dieu lui-même, est entièrement digne de confiance et nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. J'ai vu un jour une autre Anne-Marie. Qui est venue ici dans cette salle en 2013. Je pense que je ne vais jamais oublier ça. Anne-Marie était officière de l'armée, elle l'est toujours, officière de l'armée du salut, Anne-Marie Führer. Et elle est venue ici, elle s'est mise à genoux, là, juste là. La scène était encore ronde, comme ça, et elle a pleuré. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un pleurer comme ça. Puis elle disait, « Seigneur, où sont tes soldats ? Seigneur, où sont tes officiers ? Seigneur, regarde, regarde ce qu'est devenu l'armée du salut. Regarde. » Et elle pleurait, mais elle criait dans ses pleurs. C'était incroyable. Puis on a pris un temps après. C'était dans le cadre du call qu'on avait vécu ça. On ne connaissait pas la situation. On ne savait pas qu'Andy était en plein burn-out, qu'il avait passé quelques années comme officier dans le Jura bernois. Ça veut tout dire. Non, c'est des gens très sympathiques là-bas. Nous, on vient de là-bas. Mais il faut y aller, hein. Il faut y aller. Je connaissais un pasteur baptiste qui est de l'église baptiste là-bas. Ils ont fait venir un type de Paris. Au bout de 4 jours, sa femme, elle est rentrée à Paris. C'est une mentalité un peu particulière. Sylvie connaît quelque chose. Hein, t'es d'accord? On vient de là. Voilà, c'est un peu difficile. Mais il rentrait d'un burn-out catastrophique, cassé. Vraiment, incroyable. Et Anne-Marie pleurait là. Mais mes amis, je connais l'armée du salut ici à Genève depuis Samuel Winkler. Ça date. Ça en fait un bout, hein? 25 ans. 25 ans. Je crois que j'ai jamais vu des officiers avoir un impact aussi grand ici à Genève. Par rapport à ce qu'ils ont porté, à ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi, comment elle s'appelle, qui vient de la même région que nous, l'épouse de Samuel. Agnès aussi. Il y a aussi Agnès qui a eu un impact incroyable. Mais en même temps, Andy et Anne-Marie ont vraiment eu un impact sur Genève et ont eu un impact aussi au niveau du corps de Christ à Genève. Jamais j'ai vu des officiers avoir un impact comme ça. Mais elle a commencé ici, dans les pleurs, dans les lamentations. Je reviens à Anne dans ce texte, notre Anne du texte, épouse d'Elkana. Anne est venue chercher le secours auprès de Dieu, elle a crié à Dieu et selon la promesse, Dieu a prêté l'oreille et est intervenu en faveur d'Anne. Le texte qu'on a vu se termine en disant « Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Et Samuel signifie « exaucé de Dieu ». C'est beau ça, hein? Waouh! Génial! Je trouve qu'il y a des prénoms, ils sont superbes. Anne a crié à Dieu, et Dieu a entendu. Et j'aimerais dire, Dieu entend toujours. Dieu entend toujours. Parce que non seulement quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses, mais le prophète Ésaïe, qui en sait quelque chose, dit ceci dans Ésaïe 59.1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. » Dieu a entendu, et Dieu est intervenu en faveur d'Anne. Elle a enfanté un garçon, Samuel. Samuel, il sera sacrificateur. Il sera en même temps le premier grand prophète après Moïse. Incroyable. Il sera le dernier juge en Israël. Il est le trait d'union, vraiment, qui permet le passage du gouvernement des juges au gouvernement des rois. Il va oindre Saül et il va oindre David comme roi d'Israël. Anne a crié à Dieu. Dieu a prêté l'oreille et Dieu est intervenu en faveur d'Anne et le règne de Pénina a pris fin. Yes. Mes amis, tout changement, toute libération, tout réveil, toute réforme, que ce soit pour une vie, que ce soit pour une église, pour une ville, pour une nation, commence toujours par un cri de désespoir. Commence toujours par des prières, une intercession dans la supplication. Le désespoir nous amène à plier les genoux devant Dieu, à chercher sa face dans les lamentations, dans le jeûne. Ce n'est pas très populaire, hein, mais quand même dans le jeûne, dans la prière. Vous savez que j'aime les histoires des réveils. Oh, j'aurais voulu être à Susa Street, par exemple. Oh, j'aurais voulu être là-bas. Il est dit que les gens voyaient le bâtiment en feu. Il y a des témoignages qui disent qu'ils appelaient les pompiers parce que le bâtiment brûlait, alors que le bâtiment était comme le buisson ardent. Il y avait du feu, mais le bâtiment ne brûlait pas. J'aurais voulu voir ça. Ce réveil qui, je m'excuse, mais a été un réveil mondial. Il a couvert le globe entier, ce réveil-là. Il a touché partout. Le Pays de Galles est une conséquence, quand même. Ça s'est répandu comme cela. Waouh, j'aurais voulu être là. Mais celui que j'aurais voulu par-dessus tout, je suis toujours très ému quand je parle de ce réveil-là, c'est celui des petites îles écossaises, les Hébrides. Parce que ce réveil-là, il a été enfanté véritablement. Il a été, vous savez, on peut enfanter. Il y a des prophéties. Mais la réalisation de ces prophéties s'enfante. Comme le prophète Élie, quand il est sur la montagne, qui confronte les prophètes de Baal, qui gagne parce que Dieu répond, et que tout le monde se réjouit et que tout le monde reconnaît que l'Éternel est Dieu en Israël, c'est le temps de la pluie. Il avait dit 3 ans, et voilà, c'est le temps de la pluie. Mais il ne va pas attendre la pluie. À quelque part, il va l'enfanter. Il va mettre la tête entre les genoux, il est dit. Il va se prosterner et il va prier. Il va prier. Il va envoyer son serviteur. Ça vient. Non. Il continue. C'est comme s'il enfante cela. Et les Hébrides, c'est ça. Les îles Hébrides, c'est ça, ce réveil-là. 1948. Les îles sont dans un état pas possible. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Franchement, à quelque part, c'est minuscule, ces îles, quand on regarde le globe. Qu'est-ce que Dieu veut bien toucher des îles aussi minuscules que ça? Ok, qui touche l'Afrique ou les États-Unis ou un grand pays, ouais, mais les petites îles Hébrides de rien du tout. Et puis, il y a 2 grands-mamans qui sont nées sur ces îles. Elles ont vécu leur vie sur ces îles, mais elles aiment le Seigneur, et elles aiment voir Dieu agir, puis elles aiment le peuple de ces îles. Et elle veut voir ce peuple se tourner vers Dieu. Peggy et Christian Smith, 84 ans, 82 ans, une, je crois qu'elle est aveugle, même, et elle commence à prier pour leur île. Elle supplie le Seigneur de visiter leur île, d'intervenir. Et lors, dans un rêve, je ne sais plus laquelle, si c'est Christine, mais dans un rêve, Dieu lui dit « Je viens ». Waouh, c'est extraordinaire. Et elles n'arrivent plus beaucoup à se déplacer, elles sont âgées, et déjà à l'époque, 1949, 84 ans, 82 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous, dans le Jura, on disait, quand j'avais 15 ans, on disait « Waouh, il a vécu jusqu'à 75 ans, c'est pas mal !» Mais ça, c'était, vous voyez, dans les années 80 et quelques. Donc, là, on est en 49, juste après la guerre. Et leur pasteur, ben, ils ne peuvent plus trop se déplacer. Le pasteur va les visite de temps à autre. Et ce pasteur s'appelait James Murray McCain. Et puis, ce pasteur va entendre le rêve. Et il va y croire. Et il va y croire. Et ils se mettent, c'est comme s'ils se mettent d'accord entre elle et l'Église de dire, eh bien, on va prier pour ça. Et en fait, ensemble, l'Église va se mettre en route à prier. Et ensemble, ils vont enfanter ce réveil. Vraiment. Dieu est toujours souverain, vous êtes d'accord? Dieu choisit s'il veut faire un réveil. Mais quand même, moi j'appelle ça qu'ils ont enfanté. Ils ont crié. Cette Église aussi a crié. Et Dieu est intervenu. Mais ce réveil est très très beau, parce que ce réveil, c'est pas... Il a intervenu d'une manière particulière, parce que les gens étaient tellement convaincus de péché qu'ils allaient se dénoncer à la police. Ça, c'est incroyable. Et le pasteur s'est dit, mais j'ai besoin de quelqu'un. Lui, il est pasteur. Un pasteur, il dirige un troupeau. Voilà. Il lui faut quelqu'un d'autre, de beaucoup plus compétent par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire qu'il appelle un évangéliste. Il va faire venir Duncan Campbell, là-bas, aux Hébrides. Et Duncan Campbell, quand il raconte ce qui s'est passé là-bas, c'est à pleurer, tellement c'est beau. Il dit, mais les gens ne peuvent pas dormir. Ils sont dans les maisons, on les entend prier, on les entend crier à Dieu. Ils sont derrière les tas de tourbes, ils sont derrière les granges en train de s'adresser à Dieu. Partout, partout. Et ça s'est répandu et ça a duré quand même plusieurs années. Vraiment, c'est waouh. Waouh. Mais ça a commencé comme ça. Le vécu d'Anne me fait également penser à ce psaume 126, verset 5. « Celui qui sème avec larmes, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Donc, selon le vœu qu'Anne a fait, souvenez-vous que la Bible dit « Si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le, fais-le. » Ça, je crois que c'est dans le Lévitique. Alors, Anne, une fois que son fils est sevré, selon son vœu, elle va consacrer Samuel au service de Dieu. Elle va l'amener à Silo, au tabernacle, pour qu'il grandisse là et qu'il réside là. Et le jour où Anne va remettre son fils au sacrificateur Élie, Anne va exprimer à Dieu toute la reconnaissance et la louange de son cœur. Et je vais vous lire ça, c'est dans 1 Samuel 2, c'est juste la suite. Alors, j'y reviens. Voilà, 1 Samuel 2, où il est dit ceci. « Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. » Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante sept fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent, du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Intéressant, hein ? Triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. C'est très intéressant. Il n'y avait pas encore de roi à cette époque-là, hein, en Israël. Il donne la puissance à son roi. Elle est déjà messianique dans ce qu'elle vit. Et relèvera la force de son Messie. Alléluia. C'est incroyable ce qu'elle va dire là. C'est très intéressant, mes amis. Elle se présente avec toute la reconnaissance et la louange. Ce qui est intéressant, c'est juste pour la parenthèse, c'est que le cantique de Anne, mère de Samuel, et le cantique de Marie, mère de Jésus, sont quasi analogues. Et puis, ils commencent exactement par la même phrase. « Mon cœur exulte en l'Éternel, Anne, mon âme exalte le Seigneur, Marie. » C'est vous, hein ? C'est extra. Et peut-être, peut-être que le poème de Anne était présent à l'esprit de Marie quand elle va apprendre qu'elle donnera naissance au Messie. Peut-être. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Anne s'est présentée une première fois devant Dieu dans le désespoir, dans les larmes, dans la douleur. Puis elle s'est présentée une deuxième fois avec un chant de triomphe, un chant d'allégresse. Et mes amis, juste ça, ça m'a percuté. Parce que je me suis dit, zut, on a loupé le coche. Je m'explique. Dieu est intervenu de manière extraordinaire au milieu de nous. Dans les quelques années qui sont juste derrière nous, là, Dieu a fait des choses incroyables et il a guéri. Il a guéri vraiment au milieu de nous. Je pense à Patricia. Je pense à Olga. Je pense à Françoise, Pierre-Alain, Fabienne. Certains, c'était des cancers, d'autres des maladies incurables. Et Dieu a guéri au milieu de nous. Et on aurait dû faire la fête. Je trouve qu'on aurait dû faire la fête. On aurait dû, il faut qu'on soit plus souple, qu'on puisse stopper le programme et se réjouir, vraiment, et faire la fête. Je crois que l'exemple de ce que Anne a vécu là, je crois que ça peut être un exemple pour nous. Elle rentre, elle rentre dans la reconnaissance, elle rentre dans la louange. Et je pense que cette fois-là, elle a vraiment mangé à Silo. Je pense qu'elle a mangé, et elle a bien mangé à Silo. Et elle a fait la fête. Et je me dis, quand Dieu intervient d'une manière comme ça, quand Dieu intervient au milieu de nous, d'une manière extraordinaire comme ça, comme il l'a fait là, il faut qu'on s'autorise à faire la fête. Il faut qu'on dise, allez, on avait prévu ça dimanche, top, on arrête, et puis on rentre dans la reconnaissance, la louange, et on fait la fête au milieu de nous, et on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Hein? Tu me fais rappeler, hein, Blaise, hein? Il faut qu'on puisse avoir cette liberté de changer et faire ça. Mais quelle transformation, mes amis, quel miracle, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. D'où me viendra le secours? C'est le psalmiste qui répond au psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et j'aimerais ajouter, il ne permettra pas que Pénina triomphe et qu'elle ait le dernier mot. Il ne permettra pas ça. Vous me direz, mais Stéphane, et je termine avec ça, mais la situation de Anne, franchement, elle n'a pas changé. Ou plutôt, elle est pire qu'avant. C'est une mère. Elle a eu un fils. Elle a pu le sevrer, mais elle ne peut même pas le chérir. C'est une mère. Elle ne peut même pas le chérir. Elle ne peut même pas le combler de son amour maternel. Elle ne peut même pas l'étreindre parce qu'elle a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. et il sera à ton service. » Et c'est ce qu'elle fait. Elle le fait. Elle ne dit pas « Oh, c'était juste un gag, écoute. Dans mon désespoir, j'ai dit ça, mais... » Non, elle a fait un vœu et elle va tenir ce vœu. Est-ce que ce n'est pas pire que de ne pas avoir de fils ? Elle va le voir peut-être une fois par an quand elle va au sacrifice. Mais vous croyez que Dieu dit merci et c'est tout ? Samuel Peter Schmidt de l'église à Mulhouse me disait « Tu sais, j'ai jamais rien pu donner gratuitement à Dieu. Jamais. J'ai essayé. Mais j'ai jamais rien pu donner gratuitement à Dieu. J'ai toujours reçu en retour, d'une manière ou d'une autre. » Et je connais son cœur. Il me donnait cet exemple en disant, tu vois, un jour, ça, ils ont une implantation en Guyane française. Hein. Et puis, au bout d'un moment, l'église, les anciens de Mulhouse lui disent, ça fait longtemps que tu n'es pas allé en Guyane, il faut que tu prévoies d'y aller cette année. C'est pas mal ça, hein? Franchement, c'est les anciens qui lui disent « Hé, va un peu en Guyane. » C'est pas « Tu nous casses les bonbons, va en Guyane. » Non, non, c'est « Va vraiment en Guyane. » Et puis, l'église prend en charge tout le déplacement. Et cette année-là, Samuel dit « Non, non, c'est moi qui prends le déplacement. » Il a une conviction dans son cœur qu'il doit prendre, c'est pas la charge de l'église, c'est à lui qui prend le déplacement, les frais de déplacement concrets. Et il prend tout ça. Mais Samuel est papa d'une famille nombreuse, très nombreuse. Et là où il habite, il a dû augmenter la surface d'habitation. Il a dû augmenter la maison, là où il habite, il a dû faire des pièces supplémentaires à l'extérieur, c'est-à-dire il a dû abattre des murs, en ajouter des nouveaux et tout ça. Et en France, je pense que peut-être qu'en Suisse il y a aussi ça, mais en France, en tout cas là-bas, en Alsace, il y a un endroit où on peut acheter carrément des pans de murs, comme ça, avec fenêtres intégrées, touc, touc, ça se clique, après ça se met, tout passé dessus, enfin bref, il y a tout ça. Et puis avec un type de l'église qui est chauffeur pour un camion, ben, ils vont chercher les matériaux, tout pour construire cette partie de la maison, quoi. C'est des murs, c'est des fenêtres, c'est un toit, c'est énorme, j'entends. Et ils vont, ils chargent le camion, tout ce qu'il faut, et puis le chauffeur, il revient, après, en passant à la caisse, après il revient, puis il dit, c'est pas vrai, Samuel, t'es béni, toi, c'est pas vrai. Sur la quittance, c'est marqué, offert. Les murs, les fenêtres, le toit, les briques, tout ça, offert. Il dit, mais j'ai jamais rien pu donner gratuitement à Dieu. Waouh. Dieu a vu les larmes, il a entendu les cris de désespoir d'Anne, et il est intervenu. Il a entendu le chant d'allégresse, il a entendu, mais il a comblé Anne, parce qu'il est dit ceci, 1 Samuel 2, 21, l'Éternel intervint en faveur d'Anne, elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Anne, dont le nom signifie grâce, a vraiment été comblée. Au total, elle a eu 4 garçons et 2 filles. Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Mais tout cela, mes amis, a commencé par un cœur désespéré, par un cri de désespoir. J'aimerais dire, ne regardez pas à Pénina. Ne faites pas non plus la guerre à Pénina. Ça ne servira à rien. C'est du temps perdu. Mais voyez cet exemple. Anne répand son cœur devant Dieu. Elle n'a pas non plus hurlé devant Dieu. Hein. Le texte dit que le sacrificateur voyait les lèvres bouger, puis s'est dit, elle est sous. Elle a juste remué les lèvres. Mais c'est son âme qui s'est répandue. C'est avec son âme qu'elle est venue devant Dieu, puis qu'elle a dit, mais que cette situation cesse, quoi. Que ça cesse. Hein. Et Dieu a été fidèle et il est fidèle dans ses promesses.
Et mes amis, j'aimerais vous laisser cela ce matin. J'aimerais vous donner cette occasion. J'aimerais nous donner cette occasion. C'est-à-dire que j'aimerais nous donner ce temps ici, devant, de simplement pour ceux qui, peut-être dans leur vie ou peut-être dans leur famille, qui vivent peut-être quelque chose comme Anne, peut-être pas dans la même chose que Anne, du même sujet que Anne, mais peut-être quelque chose sur leur place de travail ou quelque chose sur, dans leur propre famille, quelque chose qu'ils espèrent tellement avoir changé et que ça ne change pas, ou je ne sais, ou une circonstance, ou quelque chose où on doit y faire face et on lutte depuis des années et des années. Ben, j'aimerais laisser cette opportunité de prendre ce temps ici. Et vous pouvez faire comme Anne, simplement venir devant. Le Seigneur est là. Vraiment, le Seigneur est là, au milieu de nous. Et il est rappelé ceci, que quand un malheureux crie, il peut crier intérieurement, hein, c'est un cœur à l'intérieur qui souffre, qui est brisé par une situation. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le secourt de toutes ses détresses. Peut-être que ça peut aussi être une situation vis-à-vis de quelqu'un qui vous est proche et vous aimeriez tellement voir un changement dans cette situation. Et peut-être que, voilà, et j'aimerais donner cette opportunité maintenant. Si par exemple, voilà, Noémie ou autre peut simplement avoir un petit temps très doucement, musicalement, pas trop, voilà, et puis qu'on puisse donner simplement ce temps-là, qu'on puisse vivre ce temps-là. C'est déjà une première étape. Anne, elle est venue, elle s'est présentée, elle est venue, il a dit qu'elle est venue devant Dieu. Et on peut très bien le vivre là, mais ça serait bien de venir ici, comme ça, ça c'est comme si on fait cette démarche, on vient se présenter devant Dieu. Voilà, je vais laisser ce temps. Hein. Et puis ensuite, Blaise conclura. Je laisse le micro ici en bas.